Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Paul Chagnolot, professeur des universités et qui est président de l'IREMO. Bonjour Jean-Paul Chagnolot.
Bonjour.
Alors l'IREMO, pouvez-vous le présenter rapidement ?
Je crois que c'est l'idée d'un think tank. En tant qu'universitaire, j'adore l'université, mais je pense qu'il ne faut pas rester entre soi. La recherche entre soi, ça ne va pas bien loin. D'où l'idée de faire une association, un think tank, qui rassemble à la fois des universitaires, des diplomates, des journalistes, quelques politiques. Et un peu à l'image de l'IRIS, mais en petit. Voilà. Et sur le Moyen-Orient.
Sur
le Moyen-Orient et le Maghreb.
Voilà.
Et le Maghreb.
Qui était votre spécialité. Vous avez consacré de nombreux ouvrages à la question. Et nous allons aujourd'hui parler donc de la question palestinienne, dont vous êtes l'un des tout premiers spécialistes en France. Comment peut-on définir la situation qui règne pour la Palestine avec à la fois le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem et le même jour ce qui s'est passé à Gaza, on a un peu le sentiment qu'à quelques kilomètres près, on était dans deux mondes tout à fait différents.
On est effectivement depuis très longtemps dans des mondes très différents, même historiquement, sans aller trop loin dans les détails. L'histoire de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, bien entendu, est très différente de celle de Gaza. La Cisjordanie, entre 1948 et 1967, était une région qui a été entièrement annexée par les Jordaniens. Et donc, il y a eu une socialisation jordanienne. Et par conséquent, le nationalisme palestinien a été pendant des années étouffé, jusqu'en 67 au moins. Et alors qu'à Gaza, c'est l'inverse. C'est toujours été un terreau du nationalisme palestinien. Ça a été pendant cette même période que j'évoque, de 48 à 67, ça a été sous administration égyptienne et il n'y avait que des réfugiés, en tout cas 80-85% de réfugiés. Donc un vrai terreau du nationalisme palestinien, d'où d'ailleurs sont sortis la plupart des leaders qui ont ensuite monté l'OLP, Arafat et les autres. Donc je crois que, alors ça c'est le fond de l'histoire, ou l'histoire en fond d'écran, si j'ose dire. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis maintenant des années, avec la coupure entre Gaza, dominée par le Hamas, contrôlée par le Hamas depuis les élections de 2006 et ensuite leur coup d'État de 2007, et la Cisjordanie qui est fragmentée sous occupation, mais qui est dans ces quelques enclaves des zones A et B, c'est-à-dire quelques villes et les villages sont administrés par l'autorité palestinienne, il y a une coupure territoriale, une coupure idéologique, une coupure politique, et au fond, il n'y a plus du tout d'unité nationale palestinienne. Et par rapport à votre question, je dirais que globalement, la situation est une situation de régression, c'est-à-dire que pendant toute une période, il y a eu un élan vers l'unité nationale dans les années 80-90 et depuis les années 2000, on est au contraire dans une division, dans une fracture, dans une fissure profonde dont les Palestiniens, je parle de la population palestinienne, qu'elle soit à Gaza, à Jérusalem-Est, chez les réfugiés ailleurs de la Palestine, en Cisjordanie, ils en souffrent profondément parce qu'ils n'ont plus du tout de rassemblement unitaire, ils n'ont plus de drapeau au sens symbolique du terme, qu'était l'OLP par exemple. Ils ont des organisations politiques divisées qui s'affrontent. Et en plus, des leaders qui sont, à mon avis, à côté de leur histoire.
Alors, on parle souvent de réconciliation entre ces différentes factions qu'on annonce, mais qui, en fait, depuis 2006, ne sont jamais parvenues à se réaliser concrètement.
Il y a eu plusieurs accords entre le Hamas et le Fatah, et donc l'autorité palestinienne. Et à chaque fois, ces accords, qui étaient fondés sur un certain nombre de points assez importants, à chaque fois, ils ont été oubliés, négligés, dépassés par les profondeurs des divisions et des fractures, sans parler, évidemment, des égos et des rapports au pouvoir de chacune des factions, du côté du Hamas comme du côté de l'autorité palestinienne. À l'automne dernier, on pouvait penser, on pouvait imaginer, on pouvait pour certains rêver que cette fois-ci c'était la bonne, c'est-à-dire qu'on a été assez loin dans l'accord qui prévoyait à la fois le fait que l'autorité palestinienne reprenait le contrôle de l'administration à Gaza, que l'autorité palestinienne reprenait, donc Mahmoud Abbas reprenait le contrôle des postes frontières de Eretz côté israélien et de Rafah côté égyptien, ils étaient d'accord aussi pour organiser des élections présidentielles et législatives. Donc on avait le sentiment que ça avançait, et sur ces points ils ont effectivement réussi quelques réalisation, mais en même temps, sur le fondamental, à un moment donné, le fondamental, c'est la question de la sécurité. Et la sécurité, c'est pour le Hamas conserver ses armes. Or, le Hamas est sur une posture de résistance armée. On pourra en discuter parce que ça peut changer un peu ces temps-ci. En tout cas, c'est l'idée d'une résistance armée. Donc, il faut des armes. Donc, il n'est pas question de laisser à l'autorité palestinienne ses armes. Et pour l'autorité palestinienne, il n'est pas question, à l'inverse, de laisser le Hamas, un peu à l'image du Hezbollah, de conserver ses armes et ne plus avoir le contrôle de la sécurité. Et cette contradiction-là, elle est fondamentale, parce qu'au-delà de la matérialité des armes, c'est évidemment deux stratégies qui s'opposent frontalement, je crois, une culture très différente, évidemment islamiste d'un côté, laïque de l'autre, bref, on est à mon avis pas prêt de voir un véritable accord, non pas se faire sur le papier, mais se réaliser concrètement dans la réalité, alors que les Palestiniens, où qu'ils soient, ne demandent que ça. Ils réclament l'unité nationale. Et sans unité nationale, les Palestiniens, à mon avis, ne peuvent rien faire, ni sur le plan interne, ni sur le plan international.
Et donc c'est l'occupant israélien qui est le grand gagnant de cette division.
Quand en face de vous, vous avez des adversaires divisés à ce point, il est évident qu'on peut instrumentaliser comme l'on veut. Et les Israéliens, et en particulier ce gouvernement-là, est passé maître dans l'instrumentalisation de beaucoup de choses, mais en particulier de cela. Lorsqu'il y a un accord qui se profile, Netanyahou dit « il n'est pas question que je puisse négocier avec un gouvernement dans lequel il y aurait le Hamas, parce que c'est une organisation terroriste ». Et quand le Hamas n'est pas avec le gouvernement de Mahmoud Abbas, Netanyahou dit « je ne vais pas discuter avec Mahmoud Abbas parce qu'il n'est pas représentatif de l'ensemble ». C'est-à-dire qu'il joue sur les contradictions avec une certaine habileté, incontestablement. Mais évidemment, les Palestiniens pourraient faire beaucoup déjà par eux-mêmes, même s'ils sont dans une situation terrible, pour essayer d'assumer davantage leurs responsabilités historiques, et passent par, évidemment, l'unité nationale. D'ailleurs, eux-mêmes le disent sans arrêt. Il faut l'unité nationale, il faut. Mais oui, maintenant, il faut la faire.
Mais vous disiez qu'il y avait deux stratégies différentes. Celle, disons, la voie diplomatique de Mahmoud Abbas, la résistance armée du Hamas. Les deux ont échoué.
Les deux ont échoué, pas tout à fait. Celle du Hamas, à mon avis, non seulement a échoué, mais elle a été catastrophique, elle a été contre-productive. Parce que cette façon de vouloir affronter l'armée israélienne dans les conditions que l'on connaît, à tel ou tel moment, c'était d'abord bien avant, à l'époque d'Oslo, parce que c'est quand même eux qui ont lancé les premiers cette résistance.
Attentats suicides, oui.
Comment ?
Les premiers attentats suicides.
C'est ça, c'est d'abord, même si après il y a eu des gens du Fatah qui ont suivi, mais fondamentalement c'était le Hamas, et donc ça a été tout à fait désastreux, parce que ça a conduit à une fracture absolument définitive entre les deux sociétés, palestinienne et israélienne. Évidemment, ce qui s'est passé au moment des guerres aussi. Donc on est vraiment... Je crois que cette stratégie était une stratégie qui s'est fracassée, littéralement, sur les murs. Celle de Mahmoud Abbas, il faut la prendre à deux niveaux. Si on prend tout ce qui a été fait pour que la question palestinienne soit inscrite dans le droit international, eh bien là, ce n'est pas un échec, parce que finalement, maintenant, si on compare les textes entre 1967, 1975, 1990, et tout récemment, on voit bien que le droit international, c'est-à-dire le compromis établi par l'ensemble des États de la communauté internationale, c'est ça le droit international. C'est la source, c'est évidemment les États du monde entier qui se mettent d'accord sur un compromis politique. Et de ce point de vue-là, eh bien, les dernières résolutions du Conseil de sécurité sont extrêmement claires. Il faut deux États, donc il y a un peuple palestinien, Jérusalem doit être la capitale des deux États, etc. Donc de ce point de vue-là, la stratégie l'a emporté. Mais si on passe sur le versant de l'effectivité, oui, mais c'est pas seulement sur le papier, parce que la lutte pour être reconnu dans le droit, ça a pris 30 ans. Et Mahmoud Abbas, c'était là-dessus. Si on regarde, par exemple, soyons concrets, la résolution 242 de 1967, celle qui vient juste après la guerre, eh bien, c'est une résolution très importante qui demande à Israël de se retirer des territoires occupés. Même le mot palestinien n'y est pas. Même le mot palestinien n'y est pas. On dit simplement les réfugiés. Il faudra un juste règlement des réfugiés. Mais on ne dit pas lesquels. Si on prend la dernière résolution importante qui date du 23 décembre 2016, la résolution 2334 votée par le Conseil de sécurité avec les États-Unis qui s'abstiennent, mais quand même ils soutiennent, diplomatiquement ils ont soutenu, eh bien vous avez tout, il y a tout, il y a la solution à deux États, il y a la reconnaissance de Jérusalem comme capitale des deux États, etc. Donc vraiment, ils ont gagné sur ce plan. Donc c'est pas simplement le papier, c'est une légitimité. La légalité internationale, elle est fondée sur une légitimité internationale, et on obtient une légitimité internationale que par le combat politique.
Oui, mais
par contre, sur l'effectivité, bien sûr, voilà. Ils ont perdu. Et évidemment, on ne voit que ça, à juste titre, pour ceux qui en souffrent.
Parce que, en fait, je crois que c'est Isaac Shamir qui l'avait dit en son temps, au début des années 90, nous aimons tellement négocier que l'on peut négocier pendant 1000 ans. Et donc, en fait, est-ce que, finalement, le Hamas, à la fois, est venu un peu, faire diminuer le camp de la paix en Israël par les attentats, oui. Il porte une lourde responsabilité dans, si c'est la disparition, du moins la réduction aux acquêts du camp de la paix.
Absolument.
Mais en même temps, est-ce que pour ceux qui disent que depuis le départ les accords d'Oslo étaient une illusion, parce que le rapport était inégal, que l'autorité palestinienne a reconnu Israël, alors qu'Israël n'a reconnu que l'autorité palestinienne et que les accords d'Oslo ne pouvaient aller que cela. Est-ce que vous pensez que si Rabin n'avait pas été assassiné, les accords d'Oslo seraient rentrés réellement en œuvre et qu'on aurait aujourd'hui un État palestinien où dès le départ les dés étaient pipés ?
Comme vous le savez, personne ne peut répondre à cette question, car on refait l'histoire. Pour avoir suivi vraiment de très près cette période des accords d'Oslo, en partie sur place, en discutant avec les acteurs et des responsables importants, je crois effectivement que l'assassinat le 4 novembre 1995 d'Isaac Rabin a été sans doute décisif dans l'échec, mais rien n'était programmé, de toute façon, même s'il était resté en vie. Mais je crois que c'est incontestable. Et une anecdote qu'un de nos amis, René Bachmann, racontait. René Bachmann était avec Yasser Arafat le jour où, le soir où Arafat apprend la nouvelle de l'assassinat, tout de suite. Et Arafat est devenu blême. Il a tout de suite compris qu'il perdait son interlocuteur. Et ce n'est pas Shimon Peres qui a été... Donc c'est incontestable qu'il y a eu ça. Bon, après, je ne crois pas que les dés aient été pipés. Si, par la suite, il aurait fallu... peut-être pas grand-chose pour que ça réussisse. On oublie trop souvent que en 1996, après la mort de Rabin, qu'est-ce qui s'est passé ? Pérez a essayé de tenir les rênes avec beaucoup de maladresse. En plus, il a attaqué le Liban pour un certain nombre de raisons. Et il faut rappeler qu'au mois de mai 1996, c'est-à-dire quelques mois après la mort de Rabin, eh bien, ça a été Netanyahou qui a été élu. Qui a été élu contre Pérez de très peu, à peine un point. Et Netanyahou voulait absolument casser Oslo. Il est resté au pouvoir 3 ans, de 96 à 99. Après, c'était Ehud Barak. Donc, pendant cette période de 3 ans, de 96 à 99, Benjamin Netanyahou, encore lui, en plus, à l'époque, je rappelle ça à nos auditeurs, c'est qu'il a été élu au suffrage universel direct. C'était une révision constitutionnelle qui peut nous paraître un peu étrange. Nous, c'est notre président qui est élu au suffrage universel direct. Eh bien, en Israël, à 3 reprises, et là c'était la première fois, on l'a élu au suffrage universel direct. Donc il avait une légitimité, mais qui était liée aux attentats qui avaient eu lieu quelques semaines avant, en février-mars. Donc il faut bien voir. Donc je ne crois pas que les dés étaient pipés. Je crois vraiment que les événements ont fait que les politiques n'ont pas eu les épaules solides suffisamment pour tenir le coup après. Et je pense aussi aux Américains, aux Européens qui ont soutenu vers la fin, mais trop tard finalement. Puis un dernier mot quand même. Malgré tout, il y avait une chose, s'il y avait un dé pipé, c'était celui de la colonisation. Je crois que dans la négociation, ça c'est clair, ceux qui étaient en charge de la négociation, c'était des gens de l'extérieur, ceux qui venaient de Tunis. C'était pas les gens de la Cisjordanie. Et donc, les gens de Tunis ont sous-estimé la colonisation. Et pendant toute la période d'Oslo, comme chacun le sait, la colonisation a continué, y compris du temps de Rabin, d'ailleurs. Donc ça, évidemment, ça a été un élément qui a beaucoup affaibli le processus d'Oslo. Mais en 2000, c'est-à-dire au moment de Camp David, puis ensuite à Taba, on n'est quand même pas passé très loin. Il aurait fallu, je crois, simplement, non pas que les dés soient pipés ou pas pipés, mais je crois qu'il aurait fallu des hommes politiques qui aient les épaules fortes, qui aient les épaules solides. Parce que pour assumer une paix de cette envergure, il faut vraiment des hommes d'État.
Donc quelqu'un comme Rabin, pour une fois, le terrorisme a obtenu son objectif politique, puisque son assassin voulait faire dérailler le processus de paix, et il y est parvenu. Charles Anderlin, dans un de ses livres, dit que là où Rabin a fait une erreur, c'est après l'assassinat de 49 Palestiniens, je crois, par Goldstein à Hébron, de ne pas avoir fermé cette colonie, donc d'avoir envoyé un signal de faiblesse par rapport aux colons.
Oui, ça, c'est effectivement un moment clé. Il y a eu cet assassinat à Hébron, dans la mosquée d'Hébron, c'était beaucoup lui ont dit, mais il faut que vous utilisiez cette tragédie pour faire en sorte de chasser les colons du centre d'Hébron. Parce qu'il faut vraiment connaître la situation à Hébron, qui est très particulière, où c'est vraiment des colons, mais vraiment des radicaux fanatiques.
C'est quelques centaines qui gâchent la vie de milliers de Palestiniens.
C'est ça, qui occupent le centre de la ville.
Et sur les hauteurs, et qui jettent des ordures régulièrement.
C'est ça, c'est un monde absolument apocalyptique. Ils ont ces colons, ces quelques centaines de colons, comme vous dites très justement, c'est en fait, ils ont desséché le centre-ville. Ils l'ont vraiment complètement anémié. C'est une vie impossible pour les gens d'Hébron. Et tout autour, juste à côté, il y a une autre colonie très importante historiquement aussi, c'est une des premières, c'est Kiryat Arba, mais elle est à l'extérieur de la ville. Et donc là, c'est vrai que je pense que ça a été une occasion manquée par Rabin, qui aurait pu montrer ainsi sa détermination, et il l'a pas fait. Ça, c'est, je crois, vraiment une erreur, mais bon, qu'est-ce que ça signifie une erreur, surtout vu de si loin, quoi.
Alors, nous sommes l'un et l'autre partisans de la solution dite des deux États. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à la réalité sur le terrain, par rapport à l'émettement des territoires palestiniens, par rapport au rapport de force, aussi bien à Tel Aviv, de la composition du gouvernement et même de la société israélienne, et l'appui sans faille que donne Donald Trump, l'axe avec l'Arabie saoudite, est-ce que cette solution à deux États est encore possible ?
Je crois que fondamentalement, oui, pour au moins trois raisons. La première raison, c'est que, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure, mais en un mot, elle est juridiquement fondée. C'est-à-dire qu'elle est consacrée par le droit international, et je répète que la légalité internationale trouve sa source dans la légitimité internationale. Et c'est donc essentiel. Deuxièmement, elle est politiquement nécessaire. Elle est politiquement nécessaire pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. La solution à deux États buterait sur au moins deux questions. Ça veut dire qu'une solution à deux États exclurait, oublierait tous les réfugiés palestiniens, toute la diaspora, car quand on parle d'un État, on parlerait que de ceux qui sont sur le territoire de la Palestine. Et la seconde raison pour laquelle c'est une impasse, et c'est pourquoi l'autre, la solution à deux États est politiquement nécessaire, c'est qu'il n'est pas question pour les Israéliens d'imaginer un instant qu'ils puissent perdre la majorité. Hein, c'est un État juif. Un État juif, ça veut dire qu'il y a une majorité juive. Par conséquent, il n'est pas question qu'il puisse y avoir des Palestiniens qui aient des droits, peut-être, mais certainement pas celui d'être souverain. Et enfin, troisième point, je pense que troisième raison, c'est que contrairement à ce qu'on dit, à mon avis, elle est toujours matériellement possible. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a 61% de contrôle par Israël, c'est vrai de la zone C, mais c'est pas pour autant qu'il y a 61% de bâtiments. En réalité, en termes de bâtiments, de construction, d'infrastructures qui peuvent effectivement plomber un éventuel règlement, ça représente entre 5 et 8% du territoire. S'il y a une volonté politique, c'est pas un problème, surtout qu'on peut véritablement faire des échanges de territoires, comme ça a été évoqué il y a encore pas très longtemps, notamment quand Kerry a fait ses navettes, on a reparlé de ces échanges de territoires, c'est-à-dire que certains territoires palestiniens seraient annexés par Israël, et Israël pourrait rétrocéder, mais alors, du côté de Gaza, quelques territoires. Donc, c'est juridiquement fondé, politiquement nécessaire, matériellement possible, donc je crois qu'il faut conserver cette solution, même si aujourd'hui, elle paraît effectivement peu réaliste, mais il n'y en a pas d'autres.
Par rapport à votre deuxième argument sur l'équilibre démographique, le coup de génie de Sharon était quand même de faire sortir Gaza de ce décompte démographique entre juifs et arabes, et donc les faucons israéliens, le parti des colons, pour vous dire, mais non, nous sommes toujours majoritaires, et largement majoritaires, parce qu'il y a 1 600 000 Palestiniens qui ne comptent pas, puisqu'ils sont à Gaza et que donc ils ne comptent pas.
Bien sûr, on peut parler comme ça, mais c'est en fait la question, si on devait regarder dans le détail, la question est compliquée, parce que nous avons en fait 300 000 Palestiniens à Jérusalem-Est, on a environ 2,7 millions en Cisjordanie et 2 millions à Gaza. Au total, ça nous fait environ 5 millions d'habitants, et c'est clair que la droite israélienne ne pense pas avec ces 5 millions d'habitants, mais ils pensent même pas avec les 2,7 millions de Cisjordanie. Les 300 000 qui sont à Jérusalem-Est ont simplement une carte de résident, donc ont des droits très faibles et une précarité dans leur statut. Mais sur les 2,7 millions, en fait, ils raisonnent comment ? Actuellement, les dirigeants de droite et d'extrême droite israéliens, ils disent « on va annexer simplement une partie de la zone C ». Et en gros, la zone C, c'est donc l'essentiel du territoire de la Cisjordanie, sur lequel il n'y a qu'environ 5% de la population palestinienne, soit environ 300 000 habitants. Alors 300 000, et même sur ces 300 000, certains disent « il n'est pas question de leur donner des droits politiques ». Donc effectivement, la question démographique, ils la voient arriver de loin et trouver des solutions, déjà pour ne pas donner de droits à ces 300 000 seulement sur la Cisjordanie. Alors, je ne parle pas des 2,7 millions de la Cisjordanie, et vous avez raison, encore moins des 2 millions
qu'ils espèrent,
ils sont sous occupation juridiquement, mais qu'ils espèrent être engloutis par la Méditerranée. Dans leur rêve, c'est englouti dans la Méditerranée.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Palestiniens ont été abandonnés par ce qu'on appelle à tort ou à raison la communauté internationale ?
Je crois qu'elle a, pour une bonne part, démissionné, et d'autre part, est vraiment tout à fait aujourd'hui aux côtés d'Israël, je pense aux États-Unis. Je pense que le grand revirement de ces dernières années, c'est évidemment, ces derniers mois même, c'est évidemment celui des États-Unis. Obama n'a pas fait grand-chose, mais il est resté sur les principes très clair là-dessus. Et en particulier, c'est grâce à lui, si cette résolution dont je parlais tout à l'heure, la résolution 2334, qui est très importante, du 23 décembre 2016, c'est grâce à lui que cette résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Mais avec Trump, nous sommes dans une démarche radicalement différente de déstabilisation profonde. Et là, on ne peut plus parler de communauté internationale. Elle a implosé. On peut même plus parler d'Occident. Aujourd'hui, il y a les États-Unis d'un côté, il y a les Européens de l'autre. Et on ne peut même pas parler des Européens aujourd'hui. Il faut parler des différents segments d'une Europe complètement en crise. Donc vraiment, effectivement, est-ce que c'est de la démission ? Est-ce que c'est... Je crois vraiment que c'est une fragmentation aujourd'hui. Les rapports de pouvoir sont en train de changer profondément.
Est-ce que par rapport à cela, le plus grand changement n'est pas le changement de président aux États-Unis, puisque finalement, Obama a fait voter ce texte, mais il ne s'est jamais frontalement opposé à Netanyahou. Et même l'aide économique que les États-Unis donnent à Israël est augmentée $1 milliard chaque année pour faire passer le deal nucléaire iranien. Mais est-ce que le grand changement, c'est pas ce grand mouvement stratégique qui voit l'Arabie saoudite devenir allié de fait d'Israël?
Oui, alors ça c'est important. Et c'est effectivement, on a une redistribution des rapports de force depuis déjà quelques années, hein, mais ça se voit davantage depuis l'arrivée de Trump. Est-ce que Trump vient en support de cette alliance implicite, ou presque explicite, entre Israël et l'Arabie saoudite? Mais bon, en même temps, c'est au niveau des dirigeants. Et du côté de l'opinion publique saoudienne, je ne suis pas sûr que, par exemple, sur Jérusalem, on suive la position qui semble être celle de Mohamed Ben Salman, consistant à dire pas de Jérusalem, mais simplement ici les Moulineaux, l'équivalent, c'est-à-dire Abu Dis. Hein. Je ne crois pas qu'il puisse aller très loin sur cette ligne, le dirigeant saoudien, parce que les musulmans ne pourront pas accepter ça, ni en Arabie saoudite, ni en ailleurs. Donc c'est peut-être plus compliqué qu'on ne le pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le triangle Washington-Tel Aviv, et Riyad se s'arc-boute et se solidifie par rapport à l'Iran. Et quand, dans ce schéma global, dans cette restructuration actuelle du Moyen-Orient, qu'est-ce qui perd évidemment complètement? Ce sont les Palestiniens. Parce que du coup, même du côté Netanyahou, on instrumentalise encore davantage le rapport à l'Iran, pour ne plus parler du tout de la question palestinienne, c'est bien clair. Alors que les sondages de l'opinion publique israélienne montrent clairement que quel est le problème le plus important pour les Israéliens, un sondage il y a quelques mois, c'est la question israélo-palestinienne, qui arrive avant l'Iran. Donc c'est intéressant de voir que ne faut pas être simplement, comment dirais-je, focalisé sur le discours de Netanyahou, qui est aussi contrarié par ses propres, comment dirais-je, collaborateurs en matière de sécurité. L'armée et les services sont beaucoup plus réservés par rapport à la question iranienne que ne l'est Netanyahou. Donc il y a des éléments d'instrumentalisation là-dedans, mais c'est vrai que la structuration a vraiment changé.
Dans un précédent ouvrage, vous écriviez que les Palestiniens étaient un petit peu finalement orphelins entre l'autorité palestinienne qui a grandement perdu de sa légitimité, le Hamas très répressif, etc. Où en est la société palestinienne? Par qui s'estime-t-elle représentée et comment expliquer cette résilience des Palestiniens?
Je crois qu'ils se sentent représentés par eux-mêmes. Quand on discute avec des jeunes Palestiniens, leur réaction, c'est toujours de dire bon, on fait nous-mêmes, on prend en nous-mêmes notre destin. Alors, ça prend mille formes. Ça prend des formes peut-être de manifestations quand ils arrivent à être en collectif. Ça s'est passé à Jérusalem au moment des portiques il y a quelques mois. Ça s'est passé, quoi qu'on dise, à Gaza il y a quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Donc, il y a cette dimension collective. Et un nombre de jeunes sont capables de se rassembler comme ça pour dire leur protestation. Deuxième type de réaction, c'est des réactions très individuelles, au fond. Et moi, j'ai rencontré des jeunes qui avaient 20 ans, et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient rencontrer une femme, ils voulaient se marier, ils voulaient trouver un boulot, ils voulaient s'en sortir, quoi. Et je pense qu'il y a ça, quoi. Puis il y a une troisième catégorie ultra-minoritaire, mais qui existe aussi, c'est celle qui a donné ce qu'on a appelé un peu stupidement l'intifada des couteaux. C'était pas une intifada, c'était quelques individus qui finalement ont préféré mourir comme ça, parce qu'en allant assassiner quelqu'un, ils savaient qu'ils allaient mourir. Donc on a ces réactions, mais toutes ont en commun, sauf peut-être la première qui est encore dans du collectif, c'est ce repli sur soi-même parce qu'on n'a plus de représentants. Et c'est pour ça que des élections auraient peut-être beaucoup de sens, des élections qui permettraient de ressourcer tout ça, des élections présidentielles et législatives. Mais pour l'instant, il faudrait que ça passe d'abord par un accord véritable, comme on l'évoquait tout à l'heure. Quant à la résilience, je crois que les Palestiniens de toutes les générations savent une chose, c'est qu'ils doivent rester. Car ils savent que toute configuration un peu particulière risquerait de les voir obligés de partir, d'être expulsés. Donc je crois qu'il y a une résilience qui est liée à ça, quel que soit l'endroit. Il y a eu quelques années, on a oublié, les Égyptiens, c'était du temps de Morsi, avaient ouvert très grand les frontières à Rafah. Et en quelques heures, des dizaines de milliers de Palestiniens, même peut-être davantage, je ne me souviens plus du chiffre exact, mais c'était en masse, c'était parti vers l'Égypte. Ils sont revenus, et pas parce qu'ils étaient obligés, mais ils sont revenus chez eux, quoi. Ils savent que chez eux, c'est la Palestine, et je crois que c'est essentiel, ça, vraiment essentiel.
Merci Jean-Paul Chagnolleau pour l'ensemble de ces explications.